franceinter.fr.
La revue de presse, bonjour Hélène Jean.
Bonjour Patrick.
On commence avec un nouveau candidat en campagne, paraît-il.
Hollande redécouvre son électorat, titre La Provence. Et pour tous vos quotidiens, ce matin, ça ne fait pas de doute. L'histoire retiendra peut-être que c'est au Théâtre du Rond-Point hier que François Hollande est entré en campagne pour sa réélection, écrit le Figaro. François-Xavier Bourmeau s'amusant de ce lieu, le Rond-Point, pour noter que 4 ans après son élection, François Hollande est revenu à son point de départ, candidat de gauche contre la droite. C'est le message principal que le Figaro retient du discours d'hier. Il sait qu'il est trop tard pour que se construire un bilan crédible. Alors, à la gauche qui doute, Hollande dit juste « ce sera encore pire avec la droite », écrit Guillaume Tabar. Une sorte de remake du slogan de 86 « Au secours, la droite revient », qui d'ailleurs n'avait pas suffi, rappelle l'éditorialiste. À gauche, toute pour le Midi Libre, Libération et donc pour le Figaro, tous raccord ce matin sur le sens giratoire pris par le président. François Hollande tourne à gauche au rond-point, dit Libé. Ce dont se félicite Laurent Geoffrin. « Il était temps », s'exclame le patron du quotidien. « Fini la triangulation, il s'agit de renouer avec sa base ». Alors certes, rien de spectaculaire comme réforme de gauche à défendre, mais enfin, une myriade de changements modestes qui finissent par composer, sinon une politique enthousiasmante, du moins une panoplie d'avancées utiles, écrit Geoffrin, qui se demande quand même si ce sera suffisant. L'humanité forcément regarde ça d'un œil fort sceptique. De là-haut, Hollande voit la vie en rose, dit le journal, qui parle d'inventaire fantasmé de son action et de bilan enjolivé. Quand les Échos insistent sur la date symbolique du jour choisi, date anniversaire des 80 ans du Front Populaire et des 35 ans de l'accession au pouvoir de Mitterrand, qui a permis à Hollande de s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs de gauche pour tordre le cou au procès en trahison instruit par une partie de son camp. Enfin, on apprend dans La Croix qu'au-delà de la défense du hollandisme, définie comme une politique de compromis et de constance réformatrice, le président a surtout surpris Bercy, en annonçant une baisse d'impôts pour les plus modestes, gage évidemment à sa gauche, mais ce n'était pas forcément prévu au programme.
Hollande candidat, c'est fait donc.
Oui, et coïncidence peut-être, mais il se trouve que Julie Gayet est à la une de Paris Match. Ça, Julie Gayet aux marches du Palais. La journaliste Pauline Delassue lui consacre un livre-enquête, son titre « Mademoiselle ». Elle y décrit la compagne de l'ombre du président comme une femme d'influence. C'est même elle, écrit-elle, qui lui aurait soufflé le nom de Myriam El Khomri, elle qui pourrait bien être au final la dernière arme politique d'un président en mal de popularité. Elle a été le soutien de François Hollande aux heures les plus violentes. Il ne lui manque plus que le cœur des électeurs. Un second mandat serait aussi le sien. Deux donc pour le prix d'un, nous voilà prévenus. Une confusion publique-privée qui ne sera sans doute pas du goût de Mazarine Pinjot. Interrogée dans l'Opinion sur son dernier ouvrage, La dictature de la transparence, la philosophe, fille de François Mitterrand, réclame l'étanchéité entre vie publique et vie privée. Elle estime que profondeur et transparence sont ennemis et que ce dogme de la transparence met aujourd'hui en péril notre système démocratique. Et puis, désengage en règle aussi des vrais Français. Vous savez, ces invités désormais obligatoires des émissions de télé présidentielles. Mais pourquoi le président répond-il à quelqu'un de particulier ? Lui doit s'occuper de la France, s'exclame-t-elle. Ce n'est pas de la politique, ça, c'est de la charité. En tout cas, le dialogue mi-avril sur France 2, entre François Hollande et l'un de ses citoyens, une mère dont le fils est mort en Syrie, connaît un rebondissement. Vous vous souvenez que le président avait affirmé à tort que l'imam de Brest était poursuivi par la justice pour ses propos sur la musique ou le statut des femmes. C'était faux donc, mais le télégramme de Brest nous apprend ce matin que, hasard du calendrier ou non, une semaine plus tard, soit le 21 avril, une enquête préliminaire a bien été ouverte contre cet imam, sous l'angle financier cette fois. En scrutant son activité économique, les enquêteurs cherchent à passer au crible tout ce qui a trait à son train de vie, à d'éventuelles dissimulations d'actifs ou à des fraudes fiscales, pour éventuellement pouvoir finalement effectivement l'inquiéter.
Information du Canard enchaîné ce matin, Hélène, les services de renseignement seraient saisis de fièvre acheteuse.
My name is Bond. James Bond. Oui, c'est une frénésie de gadgets façon James Bond qui a saisi les forces de l'ordre selon le Palmipède. Le gouvernement vient de passer commande de plus de 5000 mini-caméras sophistiquées pour équiper la DGSI et les autres services sensibles. Et l'inventaire de ces gadgets est assez drôle, même si l'on ne doute pas qu'il soit fort utile. L'intérieur venait déjà de s'offrir des caméras miniatures à planquer dans des sièges bébés, paraît-il. Nouvelle commande cette fois, entre autres, de 275 caméras à camoufler dans des briquets, des smartphones, des paquets de mouchoirs. Mais les policiers des champs ne sont pas en reste. Pour leur permettre, paraît-il, de traquer les délinquants en milieu rural, ils vont bénéficier de 179 caméras enfouissables. Seul l'objectif dépassera de 20 cm de la terre, soit la taille d'une tige de pissenlit, qu'on pourra d'ailleurs télécommander à distance pour l'orienter. Alors en profane, on a du mal à saisir quels délinquants on pistera dans les labours. Mais plus sérieusement, le Canard Enchaîné souligne que cette boulimie de babioles électroniques pose un léger problème. Jusque-là, ces formes d'espionnage exceptionnelles étaient placées sous le contrôle d'une commission indépendante ou de magistrats. Et bien là, vu l'ampleur de la commande, ça ne va plus être vraiment le cas. Et puis caméra toujours, et celle-là n'était pas miniature, celle que la direction d'Air France a fait installer en toute discrétion la veille même du fameux CCE en octobre dernier, resté célèbre comme celui du jour de la chemise. Ces caméras laissent penser que la direction aurait anticipé d'éventuels dérapages et aurait anticipé les éventuels avantages qu'elle aurait pu tirer de ces dérapages. Enquête fouillée de Geoffroy Le Guichard, trouvée sur le site Les Jours, où il apparaît, selon un document de l'inspection du travail, que l'employeur a contribué à instaurer un climat de défiance propice à la confrontation. C'est sur la base de cette argumentation qu'un des syndicalistes CGT licenciés a d'ailleurs eu gain de cause en première instance, mais la direction d'Air France a déposé un recours. Nouveau procès le 27 mai.
On termine, Hélène, par le scandale des Panama Papers.
Et la réaction d'un homme mis en cause au moment des révélations, Pedro Almodovar, dont le nom a été cité pour avoir détenu au début des années 90 une société offshore. Alors très vite, son frère qui gérait ses affaires avait reconnu une erreur. Mais pour la première fois, donc, dans Télérama ce matin, le cinéaste espagnol s'en explique. Ça a été épouvantable, raconte-t-il. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans une sorte de reality show cruel, un cauchemar. Je ne savais rien de tout ce qui a été révélé. Mon frère, effectivement, s'occupait de tout, mais je partage la responsabilité de la faute. Responsabilité morale, assume-t-il. Moi, le citoyen de gauche, qui est en horreur ces sociétés offshore qui sont un fléau à l'origine de la grande crise que connaît l'Espagne, qui s'attaque aux plus démunis et finance même le terrorisme. Alors oui, ce fut horrible de voir mon nom apparaître, mais c'est très bien qu'il y ait des listes comme celle de Panama Papers, conclut-il, par rancunier et obstinément de gauche, Almodovar.
Vous et qui prépare sa venue à Cannes la semaine prochaine. Donc
et
il sera
la sortie
obligé
de son film.
Et donc il démine avant dans Télérama. Merci Hélène Jouan pour la revue
de presse. Il peut être de bonne foi aussi, non?
Ouh, il peut.
Merci pour lui.